C'est donc si passionnant, l'histoire.
C'est la science par excellence qui nous enseigne le vrai gouvernement des hommes et du monde.
La justice financière.
Après examen de votre réquisitoire et des informations transmises par nos confrères suisses, le parquet a décidé d'ouvrir une information judiciaire pour abus de biens sociaux et recel lors de la vente des frégates par la société Thomson à Taïwan. Et c'est vous qui instruirez, bien sûr.
Merci, monsieur le procureur.
Ne me remerciez pas. C'est pas un cadeau, cette affaire. Personne ne vous envie.
Depuis maintenant près de 30 ans, nous avons l'impression de marcher sans discontinuer sur un tapis roulant d'affaires politico-financières. Non pas qu'elles n'existaient pas auparavant. Octave Mirbeau, en 1903, avait titré une pièce « Les affaires sont les affaires ». On l'a reprise il y a peu et le public s'y est reconnu. Les vieilles combines qui déclenchent le tapage des casseroles sont assurées d'un succès durable. Mais une nouvelle génération de scandales a fait son chemin. Très internationalisé, il demande pour être débusqué qu'on entre dans les boîtes noires de la mondialisation. Des uns comme des autres, des magistrats ont tenté de se saisir. Ils affirment que le droit est une construction vivante qui doit rejoindre les nouveaux risques et que l'enjeu des contrôles qu'ils effectuent est rien moins que la démocratie. Plus les citoyens la soupçonnent, en effet, plus ils sont tentés de l'abandonner. Et, ajoute-t-il, si leur pouvoir à eux juge s'accroît, c'est que les politiques, en perdant de leur autorité morale, le leur livrent. À la fin du siècle dernier, un simple couloir du palais de justice abritait la galerie financière, puis se forma un pôle économique et financier, installé symboliquement dans l'ancien immeuble du Monde, là où les motards du journal portaient ses exemplaires vers les lieux de pouvoir, partent maintenant les convocations redoutées. Depuis 2014, le pôle est devenu un parquet autonome avec son procureur propre. On est arrivé à ce point de bascule présentement. On sait d'ailleurs que les institutions nouvelles jouent souvent leur avenir dans les toutes premières années.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Pierre Lascoum, bonjour.
Bonjour.
Sociologue aux multiples curiosités et passionné depuis longtemps par cette question des élites délinquantes. Il y a cette formule du président Édouard Herriot. Donc on est dans les années 20, je ne sais pas si vous la connaissez, je pense que vous l'appréciez peu. En politique, c'est comme en andouillette, il faut toujours mettre un peu de merde. Et à ce moment précis, quelques juges s'intéressent à ces questions, mais ils sont très peu nombreux, on les traite de francs-tireurs ou de corsaires. Et parmi eux, il y a un personnage qui vous est cher, Isidore Glard.
Oui, Isidore Glard est le premier juge d'instruction auquel on a accordé de l'importance, mais pour le disqualifier. Il était considéré, à l'époque on parlait du petit juge déjà, revanchard. C'était un homme de province, catholique, très, on peut dire, très ferme sur ses convictions, et qui avait en grande détestation le milieu mondain et financier parisien. Et donc, il va être chargé d'instruire le procès de la banquière de Madame Hanot, dont il obtiendra la condamnation, non sans mal. Mais enfin, il est, on peut dire, c'est le premier personnage un peu héroïque de cette activité ou de cette spécialisation judiciaire qui n'existait pas à l'époque, vraiment.
Mais on le retrouve dans l'affaire Stavisky, avec tel ou tel autre, d'ailleurs.
Voilà, il a été ensuite été concerné par l'affaire Stavisky. Mais c'est surtout un autre magistrat qui s'appelle le conseiller Prince, hein, qui avait une attitude, on veut dire, différente. Prince est plutôt connu pour sa dimension de juge technicien. Par exemple, il sera le premier à faire appel à un expert comptable pour démêler le réseau de sociétés financières que Stavisky avait tissé, pour lesquelles il y avait énormément d'interférences politiques, etc. Et Prince aura une fin tragique, puisque il est, enfin, à l'époque, on a considéré qu'il était tombé d'un train, c'est ça. Voilà. Dans des conditions telles qu'on pense qu'il a plutôt été exécuté.
Depuis une génération, quand même, changement de décor, et je vous propose un pas de côté vers l'Italie. En Italie, il faut le savoir, à cause de la Constitution de 1948, qui essaye de limiter au possible tout risque d'un retour de pouvoir autoritaire, c'est pour ça qu'il y a deux chambres égales, l'une et l'autre, en Italie, la dépendance du parquet est beaucoup plus marquée qu'en France. Le juge est beaucoup plus indépendant en Italie.
Oui, c'est d'ailleurs la France continue à être une exception, même s'il y a eu un certain nombre d'avancées. En France, le parquet reste toujours sous l'autorité politique, et la France a été à plusieurs reprises condamnée par la Cour de justice européenne sur ces questions-là. Et quels que soient les gouvernements de droite comme de gauche, aucun n'est arrivé à trancher et à donner une véritable indépendance au parquet.
On va prendre le cas de l'Italie en 1992, quand un juge bien connu, ensuite le juge Di Pietro, a entamé une enquête qui le mène, voici un policier qui travaille avec lui dans un interrogatoire, vers Luca Magni, c'est le patron d'une entreprise de nettoyage, laquelle est habituée à payer des pots de vin pour avoir le droit de travailler. Des pots de vin à Mario Chiesa, et Mario Chiesa, c'est, suivez-moi toujours, un ami de Craxi. Craxi, c'est alors le grand leader du Parti Socialiste Italien, ancien président du Conseil.
Mario Chiesa. Vous le connaissez ?
Aujourd'hui, qui ne le connaît pas ? Je l'ai croisé quelquefois lors d'occasions officielles. Je crois que la dernière fois, c'était pour une fête de la femme qui était organisée par la section milanaise du Parti Socialiste. Je me souviens que je vais trouver ça plutôt amusant parce que les intervenants étaient tous des hommes, Craxi, militaires et...
Je pensais que vous étiez amis.
Si c'était le cas, c'est pas un délit d'avoir des amis ici.
Non. Le délit, c'est fausser les appels d'offres. Votre société a remporté un marché pour la construction de 3 pavillons. Dites-moi comment vous avez réussi.
Nous avions les meilleurs paramètres, donc nous avons gagné.
Vous n'avez pas versé de pot de vin ?
Non.
L'entreprise Mainaghi a versé mensuellement un montant équivalent à 5% du budget de la commande. Donc vous avez bien versé un pot de vin.
Ce que vous dites est vrai. Mais moi, je n'ai payé aucun pot de vin. On a déjà essayé 1000 fois de me traîner dans la boue, mais j'en suis toujours sorti blanchi.
Seulement parce que vous êtes protégé. Vous vous croyez intouchable. Mais Craxi ne sera pas toujours là.
Craxi, ça y est, vous avez fini par le dire, parce que c'est là où vous voulez en venir, hein.
Et au total, la génération Craxi, au-delà du cas de Craxi lui-même, va tomber. Et ça va amener une autre génération, celle de Berlusconi et de son parti, laquelle n'aura de cesse de limiter les pouvoirs de la magistrature. À quoi les magistrats répondent en faisant des manifestations, la Constitution à la main.
C'est un grand exemple en Europe sur, d'une part, la nécessité d'avoir un certain nombre de pouvoirs fondamentaux pour des juges et pour leur capacité à mener des actions, le fait qu'on ne puisse pas leur retirer des dossiers qu'ils aient un véritable, parce que c'est dans tous ces domaines économiques et financiers et politiques, la qualité de la collaboration entre la police et la justice est fondamentale. Or, ce qu'il y avait aussi en Italie, c'est que les pouvoirs dont disposaient les magistrats leur permettaient d'avoir des liens, on peut dire, fidélisés avec des policiers. Les policiers pouvaient s'engager dans des travaux avec eux, puisqu'ils n'étaient pas eux-mêmes sous une... Enfin, ils étaient déjà en grande partie protégés par les mandats que leur donnaient les juges. Donc on peut considérer que c'est ce qui a manqué, qui manque encore en France.
Mais les juges dont le modèle est Di Pietro, ses amis de Manipolite, de différents pays, vont tenter de fédérer leurs efforts, toujours dans les années 1990, au motif aussi qu'il y a maintenant une internationalisation des affaires un peu partout, des boîtes noires de la mondialisation dans lesquelles il faut pénétrer.
Voilà, donc il va y avoir un mouvement original en 1996, qui est connu comme l'appel de Genève.
L'appel de Genève, c'est 7 samouraïs. qui viennent de différents pays.
Voilà, qui viennent de différents pays européens et qui partagent tous d'une part une série de constats sur le manque de moyens, aussi bien juridiques et financiers à leur disposition, mais également sur tous les obstacles, on peut dire, de relations internationales qui font que jusqu'à présent, dès qu'on demandait une commission rogatoire, ça passait par les affaires étrangères, etc. Et le manque de coopération délibérée de certains pays, la Suisse en particulier, le Liechtenstein, les îles anglo-normandes, etc., font que de toute façon, les juges pouvaient lancer toutes les commissions rogatoires internationales qu'ils voulaient, elles ne revenaient à peu près jamais.
96, le premier intervenant de ce document, c'est le procureur de Genève, Bertossa.
Le procureur général de Genève a été le premier à souhaiter plus de transparence.
Pour moi, la corruption qui sévit en Italie ou en France est aussi dangereuse pour la Suisse. Pour moi, un crime commis en France ou en Italie est un crime et c'est mon rôle de contribuer à la poursuite de ses auteurs. Les outils que nous avons sont des outils artisanaux alors que nous avons affaire à une industrie.
Il ne faut plus que le pouvoir politique mettre son nez dans les transmissions judiciaires entre États. Il faut que les juges puissent travailler directement entre eux. Les problèmes sont suffisamment graves pour qu'ils puissent le faire directement, sans intrusion du politique.
Moi, en 48 heures, je peux vous faire passer des fonds sur 4 comptes, ça ne me pose aucun problème, même dans 4 pays différents. Si le juge en face, s'il faut qu'il mette 18 mois à chaque fois, compte tenu des existences des recours, hein, 4 fois 18, ça fait 6 ans. Si en plus, il faut qu'il passe par la voie diplomatique, on a vu dans certains cas que ça prenait 18 mois, on multiplie par 2. Ça veut dire qu'il faut 12 ans pour reconstituer une chaîne à 4 maillons.
Renaud Van Runbeck, un des signataires, un des samouraïs de l'appel de Genève. Une figure là doit être évoquée, on la retrouve dans un film, je crois que vous n'aimez pas la formule d'Herriot, je crois que vous aimez modérément le film de Chabrol, L'ivresse du pouvoir.
Modérément.
Pourquoi ? C'est Eva Joly dans sa quête, dans l'affaire Elf qui est mise en scène.
Bon, alors, non, on parle plutôt sur l'aspect narratif. Je pense que volontairement, dans le scénario, pour que ce soit accessible à un grand public, la situation dans laquelle se trouvait Eva Joly est extrêmement personnalisée. Elle a son mari était malade, elle subit des pressions, des menaces extrêmement importantes. Bon, c'est une part de réalité, mais les affaires dans lesquelles elle était engagée, et en particulier le dossier Elf, étaient des dossiers beaucoup plus complexes. Tout ce qu'elle faisait, qu'elle cherchait à faire, c'était justement à établir des liens, travailler avec une autre magistrate, Laurence Wisniewski, à maintenir des rapports, à nouer des rapports importants avec la police, à agir justement sur la collaboration internationale. Donc nous ramener ça à des états d'âme un peu tragiques, voire suicidaires, d'Eva Joly.
Une personnalité présentée comme abrupte, et c'est pas innocent.
Comme abrupte, mais aussi, ce que l'on ne voit pas alors suffisamment, c'est que dans toutes ces affaires-là, les mises en cause sont de l'élite économique et politique, et ils ne sont pas habitués à être interpellés, à être interrogés. Et elle le dit dans un de ses livres, La justice pour tous, elle dit, j'ai mené dans ma vie plusieurs centaines d'instructions et d'auditions, plutôt, dans ces domaines-là, jamais devant moi, un accusé n'a reconnu quoi que ce soit.
Le président, qui est le supérieur hiérarchique de la juge d'instruction, Eva Joly, dans le film de Chabrol, c'est Pierre Vernier, il n'est pas habitué non plus au comportement d'une juge comme elle, c'est Isabelle Huppert.
C'est une petite mine.
Ça va, merci. Je suis un peu fatiguée.
Raconte-moi où tu en es.
Eh bien, j'ai contacté mon homologue suisse, il m'a expliqué le circuit. Les fameux fonds vont transiter par différentes places bancaires et vont se retrouver à Londres.
Tu vas bien vite.
Mais il faut faire vite. Je compte sur toi pour faire activer la chancellerie.
Écoute, calme-toi et écoute-moi. Je trouve vraiment que tu as l'air crevé. Je te conseille de prendre un peu de vacances.
Bah certainement pas, j'attends la réponse des banques suisses.
Je te parle franchement, je ne veux absolument pas que tu aies de problème. Alors écoute-moi. Il y a trop de vipères dans cette histoire, trop de scorpions. Il faut laisser un peu reposer tout ça. Si tu ne veux pas prendre de vacances, je peux te faire nommer quelque part. Une vraie promotion, quelque chose de bien.
Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'on dit que le juge d'instruction est l'être le plus puissant de France ?
C'est bien qu'on dit n'importe quoi. Réfléchis, ma petite Jeanne. Tu sais que je t'aime beaucoup. Pour ta prime, je ferai le nécessaire.
Tu peux te la garder, monsieur le président. Achète-toi une paire de couilles avec.
Alors, expliquez-nous précisément. Enfin, je ne veux pas que vous vous entriez dans l'intimité des personnages, mais le procureur, il est nommé par décret présidentiel, avec consultation du Conseil supérieur de la magistrature. Le président, là, qui intervient, pareillement, il y a toujours une dépendance, notamment du parquet, vis-à-vis du gouvernement.
Oui, mais on peut dire que les chefs de juridiction peuvent partager aussi les préoccupations du parquet. Pour eux, cette affaire-là est extrêmement menaçante sur beaucoup de plans, puisque au fond, ce que les juges recherchaient, c'était d'abord le fait qu'une des plus grandes entreprises nationales avait mené des détournements de fonds considérables, voilà, que l'argent qui avait été déposé sur toute une série de comptes à l'étranger qu'elles avaient du mal à reconstituer, mais quand on voyait les schémas, c'était un immense tableau. Voilà. Donc tout avait été fait pour créer de la confusion. Et elle se battait là-dedans pour essayer de trouver des points forts. Donc ce qu'il craignait, c'est qu'au bout du compte, on ne mette en évidence la destination des fonds, parce que c'est toujours ça le problème. Dans quelle mesure il y avait eu des financements politiques directs ou indirects qui auraient été assumés par sinon Elf, mais du moins par toutes ces entreprises satellites. Et là, ça, c'était une question absolument insupportable, parce que là, cela concernait vraisemblablement la totalité de l'éventail politique. Et donc, on lui conseille. C'est un peu, on rejoint, pour moi, il y a un petit parallèle avec le jeune Isidore Glard, c'est-à-dire que on voit bien comment il lui parle de façon très paternaliste, hein. C'est comme si c'était une petite fille, il faut la protéger, elle est fatiguée, elle a besoin de vacances, etc. Donc il lui parle pas comme à une professionnelle. Donc il essaie de la diminuer et de la déstabiliser pour qu'elle renonce.
Alors nous sommes toujours dans une brève histoire de la justice financière en France avec vous, Pierre Lascoum, qui avait publié nombreux livres sur le sujet, par exemple Les élites irrégulières. Mais si on regarde du côté des juges, on voit une tendance à la fin des années 90 se concrétiser qui les regroupe comme faisant partie d'une même spécialité, étant logés au même endroit, la galerie dite financière du palais de justice, puis au pôle économique et financier. Avant le parquet national dont on parle aujourd'hui, il y a eu le pôle économique et financier. Donc on est sous Elisabeth Guigou, garde des Sceaux de Lionel Jospin. C'est quoi ça, le pôle économique et financier?
C'était d'abord une réponse à une mobilisation, à la mobilisation importante des magistrats. Donc c'est un des effets positifs de l'appel de Genève. Mais aussi les magistrats, dont Eva Joly, tout ce qui était dans la galerie au parquet de justice. Enfin, elle raconte des choses, enfin très élémentaires, mais tout le monde voit bien. Par exemple, pour travailler avec un ordinateur, elle est obligée de l'acheter elle-même. Donc tout était comme ça. C'était de la justice, fonctionnement judiciaire à l'ancienne. Les greffiers avec lesquels elle travaillait, qui ont un rôle absolument fondamental, n'étaient pas des greffiers véritablement spécialisés. Il était habitué à faire des interrogatoires habituels. Donc toute la terminologie du droit des sociétés, des relations internationales, des comptes, etc. Voilà. Elles étaient, ces magistrats étaient très peu entourés.
Donc l'idée, c'est de les entourer avec des assistants spécialisés
et des représentants de l'administration, puisque il y avait représentants des ministères des finances, de l'économie, de la bourse, de la commission des banques, etc. Des gens qui pouvaient tout d'un coup donner un avis technique sur un point qui permettait d'avancer.
En 99, le pôle économique et financier quitte donc la galerie financière du palais de justice et s'installe, curieuse coïncidence, dans les locaux labyrinthiques, extrêmement vétustes à l'origine, qui avaient été ceux du journal Le Temps, puis du journal Le Monde, avec rue des Italiens, perpendiculaire au boulevard des Italiens, une énorme horloge avec des aiguilles dorées. Un peu de nostalgie, Claude Sarraute raconte ce qu'était le monde d'autrefois, puis on entendra une juge du pôle économique et financier, se féliciter de la transformation de cet immeuble.
Les Italiens, il faut l'imaginer comme un vrai petit bateau. C'est un petit navire avec énormément de bruit. À ce moment-là, tu avais des petites salles de rédaction, moins grandes que celle-ci. Les machines à écrire qui faisaient énormément de bruit. Les rotatives qui se mettaient en marche à une heure. Et en plus, on descendait, corrigeait les morasses. Il y avait l'odeur du plomb. Il y avait la page, tu sais, qu'on tapait la page sur, avec, je ne sais pas comment ça s'appelait. Elle sortait toute humide et tu faisais tes corrections au bic là-dessus. C'était tout mouillé. Et puis, et quand tu remontais, tu vois, vers une heure, tu entendais le bruit des rotatives qui se mettaient en marche. C'était le signe que notre petit bateau allait partir à l'heure. Il allait quitter le port à l'heure.
C'est dans les anciens locaux du journal Le Monde que les juges parisiens spécialisés dans la délinquance économique et financière sont désormais tous regroupés.
C'est magnifique, c'est très fonctionnel pour travailler, c'est parfaitement organisé, bien, on dirait que c'est déjà rodé presque.
Me vient une image, Pierre Lascoum. Les motards partaient à 13h, 12h30 avec les exemplaires du Monde ficelés, en paquet, et ils partaient vers les lieux de pouvoir, vers les autres journaux. Et maintenant, ce sont les convocations des juges du pôle économique et financier qui parviennent aux élites délinquantes. C'est comme la transmission d'un relais de pouvoir. Enfin, à moins que la presse ne soit très très proche des juges financiers.
Alors, c'est un des reproches permanents. Enfin, pas dire que les magistrats ne fonctionnent qu'à cela. C'est bien trop risqué. Il est évident que on peut dire depuis les années 80 et 90, sur toute une série d'affaires, les relais par la presse ont eu un rôle très important, d'une part de soutien des magistrats dans leurs initiatives, et de notre côté, on peut dire d'un certain côté, enfin limiter les capacités de nuisance des élites politiques et économiques, parce que ça devient de plus en plus difficile et coûteux, enfin on le voit bien en ce moment, de mettre systématiquement en cause les juges ou la presse, alors qu'au départ, il y a quand même un certain nombre de faits qui pose problème. C'est quand même ça qui est rappelé par les médias. Alors maintenant, sur c'est une très vieille question, la rupture du secret de l'instruction. Il faut savoir que c'est toujours très facile de mettre en évidence ou de porter l'accusation contre les juges, mais ils sont pas les seuls à avoir accès aux procès-verbaux. D'abord les avocats. Ce sont les premiers, quand il y a des auditions, ils repartent aussi avec une copie. Les policiers ont des documents, etc. Donc c'est aussi comme les accusations en termes de, ou les disqualifications en termes de petits juges, rancuniers, etc. Toujours les soupçonner de violer le secret de l'instruction, c'est toujours une façon de les disqualifier.
Mais enfin, surtout qu'en face, maintenant, il y a, allez, j'utilise aussi des adjectifs, des grands avocats, et ils fonctionnent en pack, en batterie, et qui sont de plus en plus compétents, de plus en plus pointus aussi, et qui, dites-vous, sont des spécialistes de l'effet Teflon. Enfin, ils entretiennent la complexité.
Oui, c'est-à-dire, je pense que ça fait partie des stratégies de défense. On ne peut pas leur reprocher. Mais on l'a bien vu, donc j'ai eu cette formule à propos du procès concernant l'ancien président Jacques Chirac, où finalement, pendant plus de 15 ans, tout a été fait pour que ce procès n'ait jamais lieu. Et même donc Jacques Chirac ne s'est jamais présenté devant ses juges malgré toutes les annonces qu'il avait faites. Et on peut dire que depuis les multiples recours concernant les responsabilités présidentielles, l'état de santé du président, etc. Enfin, je veux dire, les juges ont tout fait pour que finalement cette affaire n'accroche pas.
Alors le pôle économique et financier est créé, rue des Italiens, et il va connaître un faux plat pendant plusieurs années. Alors est-ce que c'est l'effet Teflon défini par vous comme étant la stratégie labyrinthique utilisée généralement par les avocats? Est-ce que le pôle financier n'a pas les moyens qu'on a promis? Il n'a jamais été si nombreux que ça, le pôle financier. Là où il tenait des dizaines et des dizaines et des dizaines de journalistes du Monde, il y a combien de juges?
Il y a une vingtaine de juges.
Et puis des assistants spécialisés, pas aussi nombreux que prévu.
Oui, 10-15 magistrats et assistants.
Et puis il faut dire aussi que dans les années 2000, certains juges ont connu des embardés procédurales, ils ont peut-être été un peu trop vite, ou du moins les grands avocats ont pisté les erreurs formelles qu'ils ont pu commettre. Mmh. À ces reproches, le Renaud Van Ruynbeck répondait ainsi en 2004.
On s'interroge aussi beaucoup, ça revient régulièrement, sur la responsabilité des juges d'instruction. Parce qu'à un moment donné, quand ils font des erreurs, ils ne devraient pas être responsables de ce qu'ils font.
Le juge, il faut lui préserver son indépendance. Il y a des voies de recours. Il est responsable.
Mais responsabilité personnelle.
Oui, responsabilité personnelle, mais pas dans ses décisions. Sinon, il n'y a plus de juge. Il y a un système. Vous dites qu'il y a des relax. Mais tant mieux s'il y a des relax. C'est pas parce que quelqu'un est mis en examen un jour qu'il doit automatiquement être condamné.
Bien sûr, mais en même temps, quand ça arrive des années après, quand ça a amené des gens à devoir quitter leur fonction,
ça fait
beaucoup de casses, quelquefois, dans la vie des individus.
Il ne faut pas mélanger tous les problèmes. Le juge est responsable de ce qu'il fait. Il est responsable des mises en examen. Quand un ministre démissionne, c'est pas la responsabilité du juge. C'est un problème entre la presse, l'opinion et le pouvoir politique. On n'a pas assumé ça. Le juge, lui, il instruit dans son cadre judiciaire.
Bon, on n'a pas l'impression qu'on est à la fin d'une époque aujourd'hui.
L'avenir le dira, mais je pense que l'instruction financière a encore de l'avenir, et je l'espère, parce que, ou alors ça veut dire, je vais vous dire, toutes les grandes fraudes qui sont internationales, on n'y touche plus, on s'en occupe plus, et on continue, on va continuer à contrôler fiscalement, on va contrôler celui qui va frauder un petit peu, les petits, voilà. Et ça, c'est une atteinte à l'égalité, et ça, moi, alors là, s'il y a quelque chose auquel je suis sensible, c'est ça. C'est l'égalité de tous devant la loi.
Les questions de Benoît Duquesne en 2003-2004 sont très dubitatives, parce que c'est l'époque où on prenant insolent, disait mon professeur de français, on imagine de mettre fin aux juges d'instruction dans certains domaines.
Oui. C'est un mouvement, disons, qui est autour du milieu des années première partie des années 2000, 2005, 2008. Il y a à la fois tout un mouvement de dépénalisation, et comme par hasard, qu'est-ce qu'on veut dépénaliser d'abord ? C'est tout le droit des affaires, ce monde-là. On envisage même de dépénaliser un certain nombre d'infractions qui concernent les activités politiques, considérant que finalement la sanction pénale n'est pas adéquate, etc. Il y avait ce grand projet dans la période de Sarkozy, carrément de supprimer les juges d'instruction. Donc il y aura, un véritable effondrement dans la période vers 2008, où il n'y a plus d'affaires qui sont transmises au parquet, les administrations ne signalent plus rien, les chambres régionales des comptes ne signalent plus rien. Donc on le voit bien dans les statistiques, il y a un effondrement des contentieux, et les magistrats sont saturés. De ce qui reste.
Heureusement, Cahuzac, 20-2014, création du parquet national financier. Alors, dites-nous en deux mots, puisqu'on va entendre encore beaucoup parler cette semaine des initiatives du parquet national financier, quelles sont ses compétences et son autonomie? Parce que c'est au parquet national financier que doivent maintenant être attribuées un certain nombre d'affaires qui relevaient, je ne sais pas moi, du procureur Molins à Paris auparavant.
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est partie des complexités de la justice, c'est que le parquet financier ne se substitue pas, il agit en complément de la saisine des tribunaux qui sont, on peut dire, territorialement compétents. Mais il est là surtout pour apporter une force de frappe juridique, une expertise, mais les décisions sont toujours prises en concertation avec le parquet territorial. Donc si là, dans la semaine, il y a une juge, le parquet demande une mise en examen d'un des acteurs, disons, de l'affaire Fillon, ça se décidera par un accord entre le parquet financier et le tribunal de Paris.
Et puis, sans doute, n'y aura-t-on pas jusque-là, citation correctionnelle, ouverture d'une information judiciaire avec peut-être nomination de juge d'instruction, mais on n'est pas là pour faire de la prévision. Merci à vous, Pierre Lascoum. Votre livre sur les élites délinquantes aux éditions Armand Collin. Chez vous, dans La Tête au Carré, cher Mathieu Vidard.
Oui, Jean, on va parler du bilinguisme. On le verra, un avantage pour la construction des enfants.